Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au micro, Lievin Bouinga. D'abord les titres, la femme à l'honneur ce 8 mars, journée lui dédiée, et c'est dans deux jours exactement. Qu'est-ce qui est prévu comme activité à Kinshasa, tant ce 8 mars que tout le long de ce mois? Réponse dans ce journal. Ouvira confronté aux défis sécuritaires, Ouvira devra aussi désormais se battre contre le choléra. En effet, cette maladie est signalée dans la zone de santé de cette ville du Sud Kivu. Heureusement, des cas signalés dans la ville commencent à diminuer. Nous tablerons ce midi sur la construction des démocraties résilientes qui répondent aux attentes de tous. Thème retenu à l'atelier de formation organisé mardi et mercredi à Kinshasa. Et pour en parler, nous avons la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale et initiatrice de cet atelier, Madame Dominique Munongo, est donc notre invitée. Encore une fois, bonjour. Le 8 mars pointe à l'horizon et c'est déjà dans deux jours. Les femmes sont à l'honneur car cette journée leur est dédiée. À Kinshasa, plusieurs activités sont prévues au cours de ce mois consacré à la femme. Cela aussi bien par des écoles, des ONG de défense des droits de la femme que par le ministère du genre. Et ces activités, il faut le dire, vont bien au-delà de la simple journée du 8 mars. En outre, elles touchent plusieurs domaines de la vie. Plotin Yambenga et Nancia Tambo nous parle de quelques-unes. Suivez.
Certaines structures prévoient des séances de réflexion, également des expositions du travail réalisé par des femmes dans l'entrepreneuriat. D'autres se penchent sur la santé des femmes avec des consultations gratuites durant tous ces mois. C'est le cas à la clinique Les Magnola à la Gombe.
Son initiatrice, Victorien Babambisha, explique le sens de cette activité.
On a pensé à donner l'opportunité aux femmes pour faire leurs consultations. On offre aussi l'échographie parce que bon, on a constaté que les femmes présentent beaucoup de maladies et s'ignorent. Les gens viennent à l'hôpital quand la maladie s'est aggravée.
Les associations féminines ne sont pas en reste. Grace Ngike, présidente de l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, nous dit ce que son organisation a planifié.
Ça sera la signature de la charte de bonne conduite engageant les femmes des médias pour la lutte contre la désinformation et les discours de haine. La plus grande activité, ça sera la 6e édition de la foire de femmes de médias.
Investir dans les leaderships des jeunes filles, c'est le thème de la tournée qu'une autre structure, Leadership de la femme des médias, organise ces mois dans certaines écoles de la capitale. Grâce Chaco, sa présidente, revient sur les calendriers de ses activités.
On aura des activités dans trois écoles des filles, à Matete, à Lemba, à Savoubou, pour parler sur le leadership que les jeunes filles doivent déjà avoir.
La Congolaise au centre de toutes les ambitions, tel est le thème national de la célébration du 8 mars.
Puisque nous parlons femmes, je vous informe que plus d'une centaine d'entre elles, parlementaires et autres, sont à l'école du savoir. Elles prennent part à une formation sur le thème « Construire une démocratie inclusive et résiliente en RDC » organisée par le bureau de la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale avec l'appui de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Cette formation, débutée mardi, s'est clôturée hier mercredi à Kinshasa. Pendant deux jours, les participants ont donc appris comment accroître le rôle des femmes leaders communautaires ainsi que comment élaborer des politiques qui répondent aux attentes de tous. Reportage Gloria Lutula.
D'après la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo, il nous faut un quota et travailler afin que les femmes puissent être nommées pour augmenter le leadership féminin dans notre pays.
Amener les femmes à se mettre à niveau, les anciennes, à se rappeler un peu des premiers pas et comment on doit procéder, à, soit des stratégies de plaidoyer. Aux nouvelles femmes parlementaires aussi, qu'elles comprennent que rien n'est jamais aisé et que rien ne tombe comme ça. Non, vous avez eu la grâce déjà d'être élue, mais il faut maintenant toujours se former.
Pour y parvenir, Pépito Kilala plaide pour des campagnes de sensibilisation et la formation des femmes et jeunes filles pour qu'elles soient capables de s'assumer.
Il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation. Parce que demain, si on veut des femmes capables et une représentativité convenable, il faut que les femmes aillent à l'école.
Marie-Ange Loukiana appelle, pour sa part, les femmes à travailler et collaborer avec les hommes et ne pas se décourager.
Mais pas seulement aux femmes, parce que sans les hommes, les femmes ne feront rien. Il faut toujours cette collaboration-là, que nous ne puissions pas nous décourager. Que cette situation d'insécurité dans notre pays doit se terminer et a besoin de l'apport de tout un chacun, là où il est.
Cette formation vise donc à amener le pays à élaborer les politiques qui reflètent les besoins et les intérêts des femmes, de sensibiliser à la nécessité d'avoir plus de femmes leaders en RDC.
Diplomatie parlementaire à présent, le président de l'Assemblée nationale fait entendre la voix de la République démocratique du Congo en Israël. Au cours de sa visite dans la Terre Sainte, Vital Kamerhe a échangé avec son homologue israélien sur l'agression dont la RDC est victime. Tout en présentant ses condoléances aux familles éprouvées dans l'est du pays, le speaker de l'Assemblée nationale dit ne ménager aucun effort pour accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, à ramener rapidement la paix dans l'est. On écoute Vital Kamerhe au micro de Michel Kifindangoy.
Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous trouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes à Defnalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination a toujours été la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays de la région.
Autre nouvelle, le report de la réunion ministérielle conjointe des États membres de l'EAC et de la SADC, initialement prévue le 28 février dernier à Harare, au Zimbabwe, ne signifie pas un échec des efforts visant à résoudre le conflit dans l'est de la RDC. C'est ce qu'affirme Stephanie Walters, chercheuse affiliée à l'Institut sud-africain des affaires internationales. Selon elle, cette décision découle des avancées réalisées lors des précédentes discussions entre les chefs d'État de ces organisations et les chefs d'état-major des pays membres de la SADC et de l'EAC tenus en février. Elle estime que des progrès enregistrés lors de ces échanges et le calendrier de travail mis en place offrent une lueur d'espoir pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans la sous-région. Toutefois, Stephanie Walters regrette la réticence de certains États à aborder la question de l'implication de l'armée rwandaise, perçue par certains comme un élément central du problème. Stephanie Walters s'exprime depuis l'Afrique du Sud au micro de Ronly Ntimbonera. Suivez.
Les propositions par rapport à la situation sur terrain ne sont pas mauvaises. Le timing non plus n'est pas trop long, à mon avis. C'est-à-dire, il y a des mesures immédiates, des mesures de moyen terme et aussi de long terme qui mèneront à rétablissement de l'autorité de l'État congolais dans les zones actuellement contrôlées par le M23 et qui inclut aussi un volet politique pour les discussions de Luanda et pour les discussions sous Nairobi. Donc, je ne suis pas du point de vue que cela a échoué. Mais comme je disais tout à l'heure, l'implication politique, c'est ça l'élément clé. Il est prévu qu'il y ait des discussions entre le M23 et le gouvernement congolais, ce que le gouvernement de Tshisekedi a refusé. Donc ça, c'est déjà un point de désaccord. Je crois qu'une des grandes lacunes aussi dans ce processus, c'est qu'il n'y a pas mention de la présence du Rwanda. On part du M23, on ne part pas des troupes rwandaises. Pour moi, c'est quelque chose qui cloche, c'est quelque chose qui pourrait aussi mener à ce que Kinshasa ne s'implique pas.
Ouvira, confronté aux défis sécuritaires, Ouvira devra désormais se battre aussi contre le choléra. En effet, cette maladie est signalée dans la zone de santé de cette ville du Sud Kivu. Heureusement, des cas signalés dans la ville d'Ouvira commencent à diminuer, mais les risques de propagation demeurent à cause de la dégradation de la sécurité dans la région. Détail avec Rachel Kiesse.
Aujourd'hui, la ville d'Ouvira n'est plus tellement exposée au choléra comme c'était le cas pendant la semaine 9, c'est-à-dire la période allant du 24 au 28 février. En cette période, la zone de santé d'Ouvira avait enregistré plus de 60 cas et 2 décès. La plupart des malades recensés étaient constitués à 80% des militaires qui étaient cantonnés dans la ville d'Ouvira dans des conditions hygiéniques déplorables. Depuis que le camp qu'ils occupaient a été désengorgé, les cas de choléra ont commencé à baisser. On est actuellement à moins de 10 cas, a-t-on appris des sources médicales qui suivent la situation de très près. La délocalisation de plusieurs dizaines des policiers congolais qui étaient entassés à la prison centrale d'Uvira a aussi contribué à la stabilisation du choléra. Toutefois, le climat des affrontements qui prévaut dans la plaine de la Ruzizi ne permet pas aux intervenants contre le choléra à baisser la garde. Un cas de la plaine avait déjà été enregistré par la zone de santé d'Uvira.
Du côté du Nord Kivu, l'hôpital de Kieshero en ville de Goma rappelle à son personnel l'attitude et les dispositions à observer en vue de renforcer sa sécurité et celle des patients. C'est tout un vademécum qui est contenu dans un communiqué daté du 1er mars de cette année et qui porte la signature de la direction de cette structure sanitaire affiliée à l'église 8e CEPAC. Reportage Sifa Maguru.
Succinctement, le communiqué comporte 5 dispositions. Le port et la tenue des services est obligatoire pendant les heures de travail, au moment de la garde comme les jours et la permanence. Avoir sa carte de service à tout moment et en tout lieu est une bonne mesure de prudence. L'identification de tous les malades hospitalisés et leur garde est exigée par les services. Prester chacun à son poste de service selon l'horaire reste de strict respect. Le respect des heures de visite est à observer. Observez vigoureusement. Les responsables de l'hôpital de Kieshero que nous avons contactés indiquent que ce communiqué est juste une note des services internes visant à améliorer les services à rendre aux patients qui fréquentent la structure sanitaire. Toutefois, la proximité avec les incidents survenus dans les hôpitaux Île-Africa, Sebeka Ndosho et Sebeka Virunga fait penser que l'hôpital de Kieshero voudrait prévenir un traitement identique. Pour rappel, des témoignages ont rapporté ces derniers jours des cas d'irruption dans certains hôpitaux d'hommes armés identifiés comme les rebelles du M23. Des malades, des blessés, des gardes malades, voire certains membres du personnel soignant ont été amenés par ces individus vers une destination inconnue.
Incroyable mais vrai, plus de 60 malades ont quitté ou alors fui l'hôpital général de référence de Chomia, à environ 60 km au sud de Bunia. Parmi eux, des femmes qui ont subi des césariennes et même le personnel soignant. Cela à la suite du regain d'insécurité observé depuis la semaine dernière sur le littoral du lac Albert. Les autorités sanitaires indiquent que cette situation affecte le bon fonctionnement de cette structure médicale. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Entre 60 et 80% de la population a quitté la zone à cause de l'insécurité, ce qui fait que l'hôpital général des références de Chomia n'est presque plus fréquenté par des malades. D'une capacité d'accueil de 100 lits, seuls 11 patients sont restés, affirme notre source. Il s'agit soit des malades qui n'ont nulle part où aller, soit ceux qui ne peuvent pas se mouvoir à cause de leur état. À ce jour, une soixantaine de malades ont fui, parmi lesquels des femmes qui ont subi de césariennes et d'autres qui étaient dans un état critique aux soins intensifs. Même les activités de vaccination, de consultations prénatales sont affectées. De nombreux patients sont partis sans même payer les factures de soins. Cette situation affecte également 5 aires de santé situées dans la périphérie où les habitants n'ont pas d'endroit de se faire soigner. Il s'agit de Jo, Bi, Torges, Nyamamba et Kahoa. Si cette situation perdure, nous risquons de vivre l'augmentation des cas de choléra, de paludisme, mais aussi de malnutrition, s'inquiète le docteur Hervé Bavi, le médecin chef des zones de santé de Chomia, Bunia, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Okapi.
Situation particulière ces derniers temps dans le Tanganyika, des déplacés en provenance du nord et du sud Kivu affluent dans la cité de Kabimba en territoire de Kalemie. Et selon plusieurs sources locales, cette situation est à la base de la hausse de prix de denrées alimentaires et de transport. On parle également de l'augmentation de prix de loyers. Voyons tout cela avec Paulin Munanga.
Depuis quelques semaines, des bateaux accostent au port de Kabimba en provenance des deux Kivu avec plusieurs déplacés fuyant la guerre. La présence de plusieurs personnes à Kabimba influe sur la vie socio-économique de la population, rapporte des témoins. Il y a hausse des prix des biens et des services. Par exemple, un sac de 25 kg de la farine de maïs qui coûtait 25 000 francs congolais se négocie actuellement à 40 000 francs congolais, voire 45 000 francs. Le prix d'une course entre la cité de Kabimba et la ville de Kalemie est passé de 15 000 francs congolais à 30 000 francs congolais, voire 35 000 francs. D'après des sources locales, cette présence massive de déplacés accroît la demande des biens et des services, ce qui occasionne la spéculation des prix sur les marchés. Un habitant de Kabimba s'exprime.
nous recevons ces derniers jours des déplacés en provenance de Kivu, comme impact négatif la hausse des denrées alimentaires au marché, ainsi que les transports deviennent tellement à la hausse. Nous sollicitons une assistance, on ne sait pas quoi faire pour les déplacés de guerre qui sont avec nous.
L'administrateur du territoire de Kalemie annonce que les déplacés sont en train d'être identifiés et demande au gouvernement du Tanganyika de le prendre en charge. John Mutombo souligne que certains déplacés sont dans des familles d'accueil, dans des églises et d'autres se trouvent dans des sites.
Délivrance des permis de conduire effectifs depuis mardi dernier à Matadi, au Congo central, une opération lancée par le ministre provincial des Transports, Edouard Nsambansitou, a indiqué que l'introduction des permis de conduire biométriques dans la province vise à renforcer la traçabilité des conducteurs et à lutter contre la délinquance routière. Retour à Kinshasa, justice dans le cadre de l'opération Ndobo et Zéro Kuluna, où huit criminels présumés braqueurs sont en train d'être jugés en procédure de flagrance depuis hier mercredi devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe en chambre foraine au rond-point Willery. Ces personnes sont accusées de braquage du bar appartenant au célèbre boxeur Martin Bakolé. Le ministère public les poursuit notamment pour vol à main armée. Selon certains témoignages recueillis sur place, ces délinquants auraient emporté une importante somme d'argent avant de s'enfuir.
Actualité internationale.
Les avocats camerounais ont lancé hier mercredi 3 jours de suspension du port de la Tauge en désertant les prétoires pour protester contre les violences policières visant leur profession. Selon nos sources, cette protestation est impulsée par le Conseil de l'Ordre des avocats qui a dénoncé dans un communiqué les violences physiques, barbarie et autres traitements humiliants dont sont victimes de manière récurrente les avocats de la part des forces de l'ordre.
L'invité.
Construire une démocratie inclusive et résiliente en RDC, c'est le thème d'un atelier de formation tenu mardi et mercredi à Kinshasa. Une trentaine de femmes leaders de la RDC ont pris part à cette formation et ont échangé sur la manière dont on peut construire les démocraties résilientes qui répondent aux attentes de tous. Pour en parler, nous recevons l'initiatrice de cet atelier, la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo. Elle est interrogée par Michel Kifindangoy.
Madame Dominique Munongo, bonjour. Vous avez organisé une formation sur le leadership féminin et inclusif. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette formation?
Aujourd'hui, nous sommes venus pendant 2 jours. Durant 2 jours, nous avions eu notre partenaire. Ça venait d'un besoin des femmes parlementaires, les nouvelles élues. Et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait 3 mandats, 4 mandats. Je peux les citer, Madame Anastasie Moleko qui était ancienne ministre, Madame Loukiana. Elles ont été avec nous pendant ces 2 jours. Et pourquoi ce besoin était là? Parce que nous avons besoin, nous en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Amener les femmes à se mettre à niveau, les anciennes, à se rappeler un peu des premiers pas et comment on doit procéder, soit des stratégies de plaidoyer, soit comment organiser, comment être leader en fait. Et aux nouvelles femmes parlementaires aussi, qu'elles comprennent que rien n'est jamais aisé et que rien ne tombe comme ça. Non, vous avez eu la grâce déjà d'être élue, mais il faut maintenant toujours se former, comment prendre la parole en public, comment agir, quel accoutrement avoir, quelle posture avoir. Et tous ces outils que nous avons eus pendant ces 2 jours nous ont permis, je l'espère quand même pour certaines d'entre nous, de comprendre que la population attend beaucoup de nous et que nous-mêmes, nous avions pu acquérir beaucoup de connaissances.
Vous prenez pour un leadership féminin résilient, comment vous comptez implanter ce leadership?
Ce leadership, je crois que c'est au quotidien. Non seulement d'abord entre nous, les femmes parlementaires, il faudrait qu'il y ait plus de solidarité. Le premier jour, j'ai parlé de la sororité même des femmes politiques. C'est important parce que si on, entre nous, on ne parle pas le même langage. Bien entendu, on vient de partis politiques différents. On a des idéologies différentes. Mais à un moment donné, autour de la cause de la femme, autour de ce désir de dire il faut davantage les femmes en politique, il faut davantage que les femmes restent, se stabilisent. Parce que bon, nous sommes 62 sur 500. On souhaiterait qu'il y ait non seulement les 62, qu'elles soient réélues,
dans 5 ans, on va dans 4 ans bientôt, et qu'il y ait davantage, qu'on soit 100 femmes éventuellement sur les autres, sur 500. Donc tout cela, je crois que ça entre dans la résilience, c'est l'entretien quotidien, les dialogues entre nous, prendre le temps d'avoir ce genre de séminaire, même une fois par mois, se concerter autour de l'essentiel au lieu de toujours être là en train de se tirailler. Parce que les conflits ne manquent pas. C'est inhérent, là où il y a les hommes, l'être humain, les conflits sont toujours là. Mais il faut à un moment donné trouver un terrain d'entente où on se dit, ok les gars, nous, ça sera évidemment ok les dames, on évolue, on change un peu la façon de travailler.
Effectivement, vous êtes minoritaire au Parlement, mais la voix de la femme doit être entendue. Comment comptez-vous mettre en place un plaidoyer efficace pour faire entendre la voix du leadership féminin ?
Non seulement à travers le réseau des femmes parlementaires. À l'Assemblée, il y a un réseau qui est informel, mais qui est reconnu, le réseau des femmes parlementaires. Donc nous sommes membres, quelques-unes d'entre nous, membres de ce réseau. Le mandat passé, j'étais rapporteur de ce réseau. Et aussi, il y a la commission égalité des chances. Donc ce sont ces deux canaux qui nous permettent, ces deux structures qui nous permettent de temps en temps, quand on se réunit, on se dit, ok, on parle un peu de la cause de la femme, la cause des enfants, de la famille. Et le bureau nous écoute. Et surtout qu'on a eu l'avantage quand même d'avoir 3 femmes au niveau du bureau, donc c'est déjà bien. Donc l'autre bureau est paritaire, le président est assez ouvert, je crois qu'il est un peu genré, donc et puis le prof Njoli aussi, même le professeur Chilumba et même surtout le président Bosso, tous ils sont un peu quand même assez genrés, donc ils nous écoutent, nous femmes en tout cas. Quand je parle d'un problème ou d'un atelier ou d'un séminaire, ils ne sont pas contre, ils soutiennent les actions de la femme.
La toute dernière question, le pays traverse un moment de crise sécuritaire énorme et c'est dans ces situations que la voix de la femme est importante. Qu'est-ce que vous conseillez aux uns et aux autres pour que la paix revienne en RDC ?
Moi, je suis artisan de paix, donc il n'y a que le dialogue. Je suis pour que les gens se regardent et se parlent, qu'on crève l'abcès, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous en sommes là, que peut-on corriger. Il n'y a que ça, parce que les armes n'ont jamais résolu un problème. Jamais, jamais de l'histoire du monde. Non, il faut s'asseoir autour d'une table, c'est là que les armes se taisent. Il faut dialoguer à un moment donné, il faut parler. Parler même de ce qui fâche, mais parler pour trouver une solution ensemble en vue de continuer.
Madame Dominique Monongo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est sur cette ambiance du 8 mars que nous bouclons ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à Martha Sebujangwe, à Élisée Chikota, à Oronelli Timbonera et à Mimi Kindou. Bon après-midi à tous.